Je sais plus où j'habite. Il y a quand même des jours meilleurs que d'autres, tu vois. Deux Italiennes d'un coup, c'est dur à s'en remettre. Parce qu'attends, arrive la fin de l'émission, et j'attendais la fille de l'agence à 4 heures. Elle m'a téléphoné ce matin, c'est une fille adorable, tu vois. Elle m'a, comment dire, accordé un délai pour envoyer les chèques. Un jour, j'ai eu au téléphone, j'ai dit je le fais. Et puis j'avais toujours pas fait des démarches pour recevoir le pognon. Donc je les envoie pas. Et puis tous les jours, j'ai pensé à ça. Je me disais, merde, il faut que tu écrives, elle est trop bien, quoi. Et que je lui explique. Et puis ce matin, elle m'a appelé. Oh, j'ai eu un message sur mon répondeur. Un angelot. Alors, elle me disait, moi, j'ai l'impression que vous fichez de moi. Alors, j'ai préparé un SMS, tu vois, en disant que j'étais vraiment désolé, mais qu'une chose qui était sûre, c'est que je me fichais pas d'elle. Puis, je l'ai pas envoyé. Elle m'a rappelé, et puis, aussitôt, ça s'est arrangé. Elle a dit, bon, ben, écoutez, je vais à Gradignan cet après-midi, je passe à 4 heures. Donc, j'attendais, en essayant d'écouter... là-bas, si je suis, parce que j'ai été interrompu deux fois. Bon, je te raconterai après. Et au générique final, Pascal Pascariello. Je me dis, tiens, c'est Pascal qui fait le générique. Peut-être Daniel vient d'avoir une attaque. Et en plus, pour parler de la teste, de la Gironde, et puis d'une manifestation dont je suis au courant. Alors voilà, quoi. Alors, Pascal, que j'attendais pas, à ce moment-là, et aussitôt après, je te dis son nom, mais tu ne répètes pas, hein. Sandy Pazuto, deux Italiennes, quoi. Ouais, elles sont trop bien, elles sont vives, mais moi j'adore ça comme ça, me faire engueuler par une fille comme ça, je craque. Et puis c'est bête parce que je voulais, en partant, j'aurais dû préparer le crocus. Tu sais, le crocus, c'est comme des colchiques, mais c'est jaune au lieu d'être mauve. Et je me suis dit, je vais lui offrir une fleur. Du jardin de ma mère, là. Et en partant, j'ai dit, écoutez, je vais vous cueillir une fleur. Elle dit, non, c'est gentil. Ouais, elle aurait pas dit non, quoi. Mais, c'est gentil, mais j'ai pas le temps, là. J'ai dit, oui, parce qu'il faudrait la mettre dans un sopalin humide pour pas qu'elle sèche, tout ça, bon. Et puis, voilà, j'aurais dû la préparer avant. Tu vois, elle l'aurait accepté, en fait. Je suis sûr qu'elle s'en rend compte. Qu'elle me fait craquer. Le problème, tu vois, et ça, c'est pas ton problème encore. Mais tu verras quand tu auras mon âge. C'est qu'elle a 31 ans. Et que je parie que Pascal, elle les a pas. Et voilà. Moi, je craque pour des filles comme ça, tu vois. Ah, c'est dur, la vie. Voilà, voilà. Mais t'as oublié de m'interrompre, là. Tu dors, Christophe? Putain, tu pourrais écouter quand je te parle. Alors, ben c'est ça, Daniel est parti en voyage, alors. Je dois aimer les femmes du Sud, moi. Voilà. Bon, allez, je bouffe pas la bande. Allez, à plus, Christophe. J'aime assez le film de François Truffaut, L'homme qui aimait les femmes. Et donc, il y a plusieurs choses assez jolies. Parce que je me suis reconnu un peu là-dedans. Moi, je suis du genre à changer de trottoir... à cause d'une femme qui passe. Il changeait, jusqu'à changer des directions même. Hop, je devais aller je ne sais où, à l'hôtel des impôts. Et puis, voilà qu'une jolie silhouette passe, une jolie paire de jambes. Et hop, je me mets à la suivre. Et puis je la perds. Ou j'aime beaucoup la mort du personnage joué par Charles Denner. J'ai oublié le nom du personnage. Il s'est fait écraser comme ça, je crois, d'ailleurs, en traversant une rue. Et alors, il est sous perfusion à l'hôpital. Et puis, il aperçoit à contre-jour, c'est la nuit, il fait noir dans sa chambre, et à travers une porte vitrée, la silhouette d'une femme. Et alors, il se lève, il se soulève, il essaie d'attraper, et il débranche la perfusion, il tombe, il meurt. Mais le plus joli moment du film... c'est quand il se trouve à l'imprimerie, où finalement on va éditer ses écrits. Et alors il relit les épreuves, et Et puis il relit un passage où il décrit une femme qu'il avait rencontrée. Et dans le passage, il y avait, alors je sais plus l'ordre, elle portait une robe rouge, je crois. Et là, il aperçoit, assis sur les marches, je crois, une gamine ou une jeune fille qui porte une robe bleue. Et alors il dit, non, bleue la robe, pas rouge, bleue. C'est vachement joli, ça, quand même. Voilà, c'est ça. L'amour, c'est ça. Allez.
Et oui, de l'amour, plein d'amour dans vos petits souliers, chers AMG, de l'amour partout à vous qui avez survécu à la truculente Boostify et à la turbulente Marmaille et qui rêvait d'ailleurs en cet après-midi. Là-bas, si j'y suis, à penser à vous. Une balade très loin au Yémen, à Sanaa, au Yémen, dont le souk est fameux et où nous allons nous enfuir et nous enfouir jusqu'à 16 heures dans la basse. J'y suis. Auparavant, encore quelques messages. Parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse, j'y suis au 01 56 40 37 37. Feliz Navidad à tous.
C'est une ville dans le soir. Une forte et puissante ville crénelée dont nous sommes à la fois les hôtes et les maîtres. Car maintenue par la géomancie à la croisée des deux voies cardinales, nous avons devant nous l'horizon sud. Nous voilà plus haut que tous les édifices, excepté celui qui nous élève, le pavillon de la tour porte-tambour. Moins que les visages renfoncés des façades, ce sont les ondulements des toits que nous dominons. Ils se poussent et se pressent, ailes déployées, ces grands oiseaux couverts de familles humaines. On en voit toutes les crêtes, les cornes et les chevrons volants. Ils disputent entre eux le diagramme dentelé du ciel. Ils appellent la pénétration du clair d'en haut dans les mordants obscurs. Toute la divination de la ville. Et c'est le soir. Victor Segalen, peinture.
Ouais, salut Daniel, salut Christophe, salut tout le monde à France Inter. Donc c'est Dominique dans les Pyrénées-Orientales. Donc je téléphonais, c'est en réponse à la jeune femme là qui était énervée, un peu comme moi aussi, puisqu'il se passe pas grand chose dans ce pays, quoi. Sur internet, il va commencer à circuler un appel pour une manifestation qui risque de commencer le 3 février ou le 4 février 2008, qui risque de durer 4 jours à Versailles, parce que ça va être pendant cette période-là que va être débattu le traité de Lisbonne, donc la ratification par nos chers députés vieillissants, quoi. Donc du 4 au 8 février, apparemment, il commence à se préparer quelque chose, donc moi je pense que je vais y monter. Et puis, je crois que là, c'est la bonne occasion si on veut les dégager, quoi. Voilà. Allez, une bonne émission à tout le monde. Des bonnes fêtes quand même, même si, hélas, pour certains, ça risque d'être dur, quoi. Allez, ciao, ciao.
C'est vrai que par moment, il faudra avoir cette force-là, quoi. Prendre sur soi et puis laisser glisser. C'est pas facile. Et je me souviens... il y a 20-25 ans maintenant. Coluche sortait du tribunal où il avait été condamné pour injure aux flics, je crois. Et il avait été condamné à, je ne sais plus, je crois, 30 000 balles d'amende. Alors les journalistes attendaient, ah, Coluche, tu t'es fait baiser, t'as injuré les flics, et ils voulaient voir sa réaction. Et alors il attendait évidemment à la sortie du tribunal. Alors Coluche, vous avez pris 30 000 balles d'amende, qu'est-ce que vous avez à dire? Il avait répondu, ça va, c'est dans mes prix. Ça devait faire chier, mais ça se voyait pas, quoi. Ça, c'était vraiment formidable. Tandis que j'ai entendu le fou du roi, là, ces jours-ci. Ah, il y a Jacques Attali. Jacques Attali, il a très mal pris qu'on se foute de sa gueule. Il a écapé au fou du roi. Il veut passer pour un penseur de notre époque, un grand penseur. Et il y a un mec qui l'a bien brocardé, quoi. Et ça l'a fait vraiment chier, et puis il a pas avalé, quoi. Et il a repris un certain nombre de points. Mais il était ridicule, parce que s'il voulait pas s'entendre dire ça, il fallait pas qu'il aille au fou du roi. Donc, tout le monde savait très bien qu'il était là pour vendre son bouquin, pour continuer à faire parler de lui.
Allá sí estoy.
La paz.
La paz.
Y la quiz.
¡Que viva el chavo!
¡Señores! ¡Feliz Navidad!
¡Joyeux Noël!
¡Feliz Navidad!
فمن أين جاءت تسحر طرفة الصدى
Salut, c'est Daniel Mermet avec Zoé Varier. Là-bas, si j'y suis, au Yémen.
Donc l'entrée du souk, c'est Bab el Yémen, la porte du Yémen. En fait, Yémen veut dire sud. Et c'est pourquoi on appelle Yémen le pays, parce que c'était au sud de la Mecque. Et là, le Yémen, c'est le sud, c'est la route de Taïz, ensuite Aden, etc. Donc c'est la porte d'entrée de la ville et du souk. Et ça, c'était véritablement l'entrée où devaient passer tous les étrangers lorsqu'ils entraient dans la ville. Et tout autour de ces remparts, que l'on voit qui encerclent la vieille ville, il n'y avait que des champs jusqu'en 1962. Jusqu'en 1962 et même jusqu'en 1970, jusqu'à la fin des guerres civiles entre républicains et royalistes.
Ah, jusqu'à 1970, la ville s'est limitée aux remparts.
Aux remparts, oui.
Bab el Yémen, c'est la porte de Sanaa. C'est ici qu'on entre dans les souks d'un des plus vieux marchés du monde arabe. Et c'est là qu'on va se laisser étourdir aujourd'hui, se perdre, s'épuiser, flotter dans les bigarrures des ruelles, dans l'effervescence des odeurs, des bruits, des cris, des éclats de vie, des désirs cachés ou montrés au bord d'un voile, un regard bordé de col. De safran, de coriandre, de poivre, de cardamome, de myrrhe, d'encens, de dattes confites, d'écorce, de café grillé, le plaisir de dire ces mots, de voir. Il n'y a pas à Sanaa, le soir, de théâtre. Et il y a bien peu de cinéma dans cette ville. Et pourquoi ? Eh bien parce que tout est là, toute la comédie, tous les comédiens sont là, au cœur de cette ville, une comédie qui se joue chaque jour depuis quelques siècles, la même trame, le même drame, mais sait-on jamais. Bien sûr, de Port-Louis à Delhi, d'Istanbul à Port-au-Prince, du Caire à Téhéran, Partout, nous avons commencé par le marché, par le bazar, le mercado. Il faut commencer par là. On engloutit des images, des tourbillons de saveurs, des puanteurs suaves, des bidoches, des safrans, des charmes, des ventres, sans bien comprendre, comme une langue nouvelle qu'on écoute d'abord avant d'apprendre l'alphabet. On se laisse bercer, saouler, on digérera plus tard. Jadis, les halles de Paris disaient tout, faisaient tout sentir par tous les sens, non seulement sur Paris, mais sur toute la France. Souk de Sanaa, marché de Sanaa, 1800 boutiques et échoppes. En fait, quand on dit souk, il s'agit des différents marchés dans ce marché, celui des forgerons, des grainetiers, des ferblantiers, des tailleurs. Il y en a comme ça une quarantaine, 50 000 à 60 000 personnes par jour passent dans ces marchés, ce marché de Sanaa. Alors il y a bien sûr l'échange, le marchandage, la négociation qui est toujours basée ici sur des références à l'islam, des citations du Coran ou des arguments fleuris du genre « Je n'ai que ta conscience pour allier » au moment où on marchande. Il y a encore de nombreux artisans, on les verra, dans ce souk, de moins en moins nombreux au profit des commerçants. Et puis il y a, et c'est le vrai cœur battant, c'est le vrai cœur palpitant dans ce brassage, toutes les composantes sociales qui se côtoient, qui se comparent, qui se toisent, se mêlent, se mélangent, se jettent, se rejettent et se distinguent. Tout ça dans un même espace, dans la même durée, jusqu'à la nuit, jusqu'à ce que le cher de la nuit, le vrai chef du marché, reprenne sa ronde immémoriale. Un vrai bouillon de culture. J'allais céder au jeu de mots et dire un brouillon. Eh bien, c'est tout sauf un brouillon. Un bazar n'est pas le bazar. C'est organisé, codé, minutieusement réglé. C'est une horlogerie fine, ancienne, pratiquement inchangé depuis des siècles. Et pour nous faire comprendre un peu tout ça, on emmène avec nous, ou plutôt on se laisse guider par un fin observateur, Franck Mermier, oui, presque un homonyme, qui à Sanaa travaille au sein du centre d'études de Yéménite et qui est un très fin observateur, je le répète, qui depuis longtemps vit dans ce souk, écrit sur ce souk et connaît ce souk comme sa poche. Rigueur de l'organisation, mais aussi improvisation quotidienne. L'idée que tout est possible persiste. L'idée du jeu persiste. Le hasard est attendu dans ces ruelles, creusées justement dans l'inattendu, comme disait Alain Jouffroy. Alors on va se perdre dans ces turpitudes et ces maléfices, et avec l'idée tout de même que, j'espère bien, nous ne comprendrons pas tout. Jacques Lyonnais disait, pour pénétrer le cœur d'une ville, pour en saisir les plus subtils secrets, il faut agir avec la plus infinie tendresse et aussi une patience parfois désespérante. Il faut la frôler sans être sournois, la caresser sans trop d'arrière-pensée, et ceci pendant des siècles.
والعاد عول قلبك بحد حتى الذي فيك حبان قلبك تحول قلبك تحول أثر على طبعك من العام الأول طول وطول طول وطول رهنك عن الواد عن الحب فول وانعاد أول قلبك بحد قلبي فيك
C'est le souk des vêtements usagés qui viennent de Tokyo, du Japon, d'Hong Kong, etc. En fait, il y a beaucoup d'animation à cause du Ramadan. Parce que c'est la préparation du Ramadan, donc les gens viennent au souk pour acheter les vêtements qu'ils vont offrir comme cadeau, surtout aux femmes.
Montrez-vous thé. Ah! Et là, il y a un chameau, aveugle, qui tourne et qui fait tourner ce pressoir à ville.
Pourquoi on tousse? Ça doit être le sésame. Ou la moutarde, plutôt.
C'est hallucinant, quand même, hein, ce chameau qui tourne dans la pénombre, là. Évidemment, ça date de quand ce truc?
C'est la nuit des temps. Ça, les pressoirs d'huile dans le souk de Sanaa sont attestés depuis le début de la période islamique.
Un chameau qui tourne depuis le 7e siècle dans le souk à l'entrée du marché de Sanaa. On est rentré par la porte de Bab el-Yamen. La seule porte qui reste encore de la ville, de l'ancienne ville de Sanaa, dont on reconstruit les remparts de terre de Pisée. Et alors, il y a une légende qui veut que cette porte, jadis, avait un charme, enfin un pouvoir, qui était que si un étranger voulait entrer dans la ville avec de mauvaises intentions, eh bien, en passant la porte, il était immédiatement foudroyé. Ça correspond un peu à nos portiques, hein, quand on entre dans l'aéroport, c'est un peu le même système. Mais est-ce que ça marche pas encore un peu, cette histoire, puisque il y a une sorte de... C'est curieux, je trouve ça inexplicable, pourquoi à l'intérieur de cette ville, on se sent si bien. Je crois que la ville avait... on lui avait donné un caractère de sanctuaire, jadis, qui doit persister encore aujourd'hui, face à l'entourage de ces tribus qui évidemment convoitaient cette merveille. Alors, on avait imaginé et décidé qu'elle serait sainte, qu'elle aurait un caractère sacré et la paix, la sérénité y régnerait. Évidemment qu'au cours de l'histoire, comme toute loi et comme toute chose sacrée, ça a été violé et subverti, mais il y a quelque chose de particulier qui est dans cette ville. Alors, bien sûr, c'est la mémoire, c'est l'immémorialité de cette ville. On nous affirme que rien n'a changé dans ce pays et dans cette ville en particulier depuis très longtemps, que cette ville, et ce serait sa grâce, a été tenue, s'est trouvée tenue à l'écart des grands boulevards de la modernité. C'est peut-être pas aussi vrai qu'on voudrait bien le dire et le croire. En tout cas, voilà, on va se balader dans ce souk avec Franck Mermier, je vous l'ai dit, qui connaît bien cet endroit pour y avoir longtemps observé chaque élément en chercheur, en ethnologue qu'il est, mais qui sait aussi redonner le charme de l'inattendu, le goût de la surprise et du premier moment.
Oui, les deux voiles de la femme de Sanaa.
Celui des femmes de Sanaa, c'est un tissu noir avec ce dessin rouge, hein, une succession de cercles rouges.
Rouge, blanc, noir.
Rouge, blanc, noir, c'est ça. Ah oui, on en voit beaucoup, surtout des femmes âgées.
Quand les jeunes préfèrent le voile moderne, si on peut dire, le voile synthétique noir.
Il y a des odeurs incroyables. Hein.
Ah, c'est l'écorce de café.
Ah, voilà, c'est ça, l'écorce de café. Ça, c'est quoi, des clous de girofle?
Ça, des clous de girofle, du sésame, du coriandre, du thym.
L'encens.
Ça, c'est de la, vraiment de la musique de la région de Sanaa. C'est la musique tribale, disons, qui est surtout employée dans les réunions tribales et des musiques de danse.
Notamment dans les mariages, c'est surtout des musiques de mariage.
Oh la foule! Attention, je plane. Ça, c'est de l'encens par contre.
Ah, voilà l'encens.
Mira, mira,
allô?
Mira,
mira.
Mira.
Et tous les hommes portent la, la jambilla hein, autour de nous. Cette espèce d'appendice, là, leur, le poignard en, qui leur sort littéralement du bas-ventre, là, qui est. Tout le monde le porte.
Allô, mira, mira.
Ça, c'est un des plus vieux souks du monde arabe. Hein.
8e, 9e siècle.
Oui, oui. Disons que ça, ça existait certainement avant, mais enfin, les attestations de textes datent de cette période. Quoi. La première inscription sud-arabique, c'est-à-dire de la langue avant l'arabe, quoi, fait dater, ça va, du 1er siècle de notre ère. Et c'était la seconde capitale, avec Mareb, du royaume de Saba. Certainement une des plus vieilles villes du monde arabe qui a gardé beaucoup de ses traits très anciens, notamment les maisons tours qu'on retrouve aussi dans le Yémen pré-islamique qui existe ici à Sanaa.
Ce qui est extraordinaire quand même, ce qui frappe, vous ça vous frappe peut-être plus, mais c'est quand même les gambia, la jambia.
La jambia c'est véritablement le... fait partie intégrante du costume masculin. Et vous voyez, là, la plupart des hommes le portent au milieu de la ceinture. C'est pour, disons, les distinguer de ceux qui les portent sur la droite de, à droite de la ceinture. Ceux qui les portent à droite de la ceinture sont généralement descendants du prophète ou des juges religieux. Et ceux qui le portent au centre sont des hommes de tribu ou des citadins qui se disent d'origine tribale. Donc ça a quand même un lien avec la hiérarchie sociale
et bien sûr
avec la viralité, etc. Il y avait des groupes sociaux comme les juifs, les pratiquants de métiers villes, c'est-à-dire les cordonniers, les tailleurs,
les métiers villes,
qui eux ne portaient pas de jambilla. Ouais, ouais. Donc c'est véritablement un attribut social important qui distingue ceux qui ont une origine, qu'elle soit une origine tribale ou une origine du type descendant du prophète, de ceux qui n'en ont pas. Donc c'était vraiment un marqueur de hiérarchie sociale avant la révolution de 62. On voit des poignards dans la statuaire sud-arabique avant l'islam.
C'est une société sans rupture, quoi, avec une continuité extraordinaire, non ?
Il y a des permanences très fortes, notamment en ce qui concerne la structure sociale, évidemment, l'architecture. Les deux étant liés, puisque l'architecture reflète aussi l'organisation de la famille, l'organisation aussi des groupes sociaux, etc.
Marché de Sanaa, tout de suite on est ramené à l'architecture au Yémen. Et c'est vrai que quand on commence à savoir lire un petit peu la ville de Sanaa, on distingue la ville arabe, on distingue les quartiers turcs, c'est que les Ottomans, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, ont dominé la partie nord du Yémen. Et puis aussi les quartiers juifs, les maisons basses, les quartiers juifs dans la ville. Donc c'est tout un brassage, évidemment, qui s'est produit dans ce marché, qui continue évidemment de se produire, avec une influence aussi de l'Inde, puisque... il y a l'océan Indien qui porte bien son nom, les côtes du Yémen étant largement ouvertes sur l'océan Indien et au loin sur l'Inde, puisque Aden est un port, mais Sanaa est une ville qui était à la croisée des lignes, des caravanes, des itinéraires des caravanes, une croisée du commerce et des marchandises qui étaient transportées depuis le sous-continent.
Beaucoup de choses que vous voyez dans le souk, notamment on est un peu dans le souk des tissus, viennent souvent d'Asie, et d'Inde particulièrement.
Une influence de l'Inde ?
Une grande influence de l'Inde, oui.
Sur la côte, évidemment, vers
la côte de l'océan Indien, même sur la côte de la mer Rouge. Il y avait aussi, jusqu'au XXe siècle, jusqu'au début du XXe siècle, il y avait aussi des marchands banians qui venaient du Gujarat, et qui était même installé dans le souk et qui faisait les intermédiaires en, du commerce entre le Yémen et l'Inde. Et on a dans un texte du XVIIIe siècle sur le souk, sur l'organisation du souk, la mention des juifs et des bagnans qui devaient payer des taxes particulières parce que ils pouvaient pas garder les portes de la ville ou garder les remparts de la ville.
Là, vous parlez des juifs, il n'y en a plus du tout ici.
À Sanaa, il n'y en a plus depuis 48.
C'est ça, depuis l'opération tapis volant.
Ouais. Il n'y en a plus et ils étaient très importants. Donc, ils habitaient dans un quartier séparé qu'on appelle le Karal Yaoud. Et ils étaient très importants pour tout ce qui concerne l'artisanat et le commerce. Notamment l'artisanat d'orfèvrerie, bien sûr, mais aussi la menuiserie, la forge, les tanneries. Et ils travaillaient aussi avec les musulmans, côte à côte avec les musulmans, dans les souks de Sanaa.
Ouais, ça cohabitait sans trop de tension. Il y a eu des moments de répression.
Il y a eu quelques imams qui étaient particulièrement virulents à l'encontre des juifs, et notamment l'imam Moutawakil qui en 1680 a expulsé les juifs de Sanaa pour les envoyer sur la côte de la mer Rouge pendant plusieurs années. Mais les musulmans à Sanaa se sont plaints de ce qu'il n'y avait plus d'artisanat et de commerce dans la ville. Enfin, disons que ça s'était réduit énormément. Et ils ont demandé à ce que les juifs reviennent. Les juifs sont revenus et ils ont construit leur quartier séparé à ce moment-là.
Mais, ghetto.
Disons, oui, ghetto dans le sens, oui, vénitien. Mais autrefois, ils habitaient dans les quartiers avec les musulmans, sans aucune distinction. Et jusqu'en 48, et jusqu'à maintenant d'ailleurs, parce qu'il reste des juifs, ils ont leur synagogue, ils ont la liberté de culte, ils peuvent enseigner la Torah.
On trouve encore des synagogues ici ?
On trouve des synagogues maintenant dans le nord du Yémen. Enfin, disons que c'est des synagogues, on pourrait dire, familiales, puisqu'il y a très peu de juifs qui restent. Mais autrefois, il y avait des synagogues même à Sanaa.
Alors on dit qu'au moment de l'opération tapis volant, on a essayé de faire apprendre la technique et l'art des... Ah, on monte là. L'art de la joaillerie, l'orfèvrerie.
L'imam Yahya a demandé aux juifs d'enseigner leur technique, notamment leur l'orfèvrerie, aux musulmans qui allaient prendre leur suite, notamment dans le métier de leur l'orfèvrerie, dans le souk de Sanaa. Alors il y en a certains qui ont appris donc des mains des juifs leur travail, quoi, leur métier. Mais ça se concernait surtout leur l'orfèvrerie, parce que pour ce qui concerne la menuiserie, il y avait aussi beaucoup d'artisans musulmans.
Marché de Sanaa, et c'est là qu'on trouve ce mot. Qu'est-ce que c'est, caravansérail? Qu'est-ce que c'est un caravansérail? Ben c'est tout simplement un endroit où jadis on entreposait les marchandises. Les caravanes amenaient les marchandises à d'autres chameaux. Hein, les images de contes, là on peut vraiment y penser. Amenaient les marchandises jusque dans ces caravansérails où elles étaient entreposées. Et très souvent, les caravansérails servaient aussi d'hôtels, de foundouk, comme on dit ici. On dormait avec parmi les marchandises, les animaux, et c'était des lieux évidemment de rencontres, de fêtes. Et ça a beaucoup servi évidemment de décor et de circonstances aux contes, aux romans, à toute une poésie arabe, entre autres. Et là, on monte justement sur un de ces derniers caravansérails. Comme il n'y a plus de rôle et d'emploi pour ces bâtiments-là, la plupart s'écroulent. Mais là, en voilà un qui a été restauré. Et on monte sur le toit de ce caravansérail pour contempler la ville de Sanaa.
Salam.
Salam.
Am Saleh, mis mojoud?
Tahad. Intadar, ana tiou.
Shukran. Mais cherchez la clé. On va monter là pour voir.
Ah ouais.
Ah, magnifique. D'ici, on a une vue sur toute la ville. Quelle splendeur, cette ville. Hein.
Vous voyez tous ces jardins? Jardins maraîchers qui sont généralement à côté des bosquets pour avoir l'eau des ablutions pour l'irrigation. Il y en avait à peu près des dizaines dans tout Sanaa. Il y en a de moins en moins, malheureusement. Et ça permettait une certaine autosuffisance pour la ville. Le marché compte à peu près une quarantaine de souks, hein, d'artisans et de commerçants. Un souk peut être une ruelle ou deux spécialisées.
Ouais.
Et vous voyez que c'est très très bien distinct des quartiers d'habitation. Si ce n'est des petites tours, des tours de garde, vous voyez.
Ah oui, là au
qui,
milieu, d'accord.
Qui permettait finalement aux gardiens de veiller la nuit.
De veiller la nuit.
Et dans ce caransérail là que vous voyez.
À gauche, là-bas.
Oui. Se trouve le cher de la nuit, qui est le gardien de...
Ah, c'est quoi le cher de la nuit?
C'est le chef des gardes du souk la nuit, et qui a juridiction nocturne sur le souk, en fait. Et autrefois, par exemple, lorsqu'une boutique était cambriolée, il devait payer sur ses deniers le prix du vol, enfin, rembourser le commerçant
assurance,
qui a
quoi,
été...
Si voilà, exactement. Il faisait assurance. Il existe toujours, ce cher de la nuit?
Il y en a toujours un, oui, cher de la nuit, qui a...
C'est son nom.
Cher al-Layl, en arabe, oui, cher de la nuit. Et on trouve... Autrefois, il y avait un cher de la nuit qui était très célèbre parce que durant la journée, il faisait le tour de tous les caransérails et il identifiait les personnes qui étaient venues durant la journée à Sanaa et qui allaient dormir à Sanaa pour justement éventuellement même repérer les voleurs avant qu'ils commettent leur forfait, parce qu'il avait on disait qu'il avait une intuition très très grande, quoi. Et personnage qui était très redouté et très respecté, Hamoud al-Qattar. Il avait donc, il a toujours sous ses ordres un corps de gardiens qui patrouille la nuit avec des bâtons.
Est-ce que ces forgerons sont ceux qui forgent les fers des prisonniers et des aliénés qu'on peut parfois rencontrer dans le marché de Sanaa? Je sais pas. Il y a comme ça des exclusions étonnantes, bien sûr, comme ailleurs. Notamment celles des Hardam, qui sont des parias, un peu comme les parias, les intouchables de l'Inde, qui sont tenus à l'écart du marché, à l'écart de la cité. On continue cette balade dans le marché, les souks de Sanaa. Beaucoup de jambias et poignards sont partout en ce moment, plus que d'ordinaire, parce que on avance dans le Ramadan, et à la fin du Ramadan, lors de la rupture du jeûne, lorsqu'on approche de la fête du sacrifice, alors il est de coutume, de règle, d'acheter un nouveau fourreau, une nouvelle ceinture et quelquefois un autre poignard, une nouvelle zambia, comme ça. C'est un signe, Franck Mermier vous l'a dit, de richesse, d'appartenance, d'identité yéménite, d'appartenance à une catégorie sociale bien précise. Mais c'est un signe extérieur aujourd'hui aussi important que un 4x4 flambant neuf ou une vidéo à la maison. C'est aussi intégré que ça, aussi important que ça aujourd'hui pour les yéménites. Alors, là, ces forgerons, ils sont quand même étonnants. Je vous disais qu'il y avait de moins en moins d'artisans dans le monde en général, et dans ce souk, dans ces souks aussi. Mais là, c'est vraiment étonnant. C'est vraiment les joyeux vulcains, on pourrait les appeler. Ils sont accroupis dans des grottes, des petits ateliers comme ça, minuscules, avec une forge. Devant leur forge, il y a un soufflet, évidemment. Et ces types, à longueur de journée, de vie dans cette chaleur épouvantable, évidemment, forge des pièces, des serrures, incroyablement compliquées, incroyablement habiles, des virtuoses de la forge,
et qui chante en travaillant, ou plus précisément qui prie en travaillant.
يلا اضرب نعطيك يمني
dans le ciseau
400 يمني
400 ريال يمني
d'accord j'achète moi ça j'en prends
قاع يمني قفل يمني
ça c'est un cadenas يمني
يمني complètement forgé
صلى الله عليك الله يا محمد
que tu pries sur toi ô Mohamed on se souvient de Dieu
يا حي يا قيوم يا مجد المعدوم
اي سي نو لي نون دو ديو
اسالك يا رحمن بالنور الذي لا يمتضي
je te demande ô toi le miséricordieux la lumière
quand vous travaillez comme ça vous chantez ça en même temps
لما تشتغل تغني
هالغني هذا الغناء
نعم oui quand je travaille je chante ça
الله يزدك الله يا من عليك عليك التوكل والخلاف يا ملك الأوضاع يا ملك الأوضاع هذا هندوان هذا هندوان هذا يشتغلوا بهالفريج
ça c'est pour coudre les couettes pour coudre aussi les sièges des mafrages
كل عمل جنب عندنا كل عمل يدوي
tout est fait à la main ici
كل عمل يدوي
tout est artisanal
Là, là, il sort cette pièce de fer du foyer, elle est toute rouge, et il va taper, il va chanter.
Maintenant, c'est bon, on peut le mettre dans le mur. C'en est une autre.
Ya Allah, Allah inana, Allah ma yirbaik, ya ilahi, ya Allah, ya Allah inana, raouna,
c'est bien. Ça, c'est pour la porte. C'est pour la porte comme celle-là. Je vais faire l'autre côté, le deuxième côté maintenant. C'est bien ?
Ah, ça coupe, dis donc.
Oh! Ça, c'est une fabrication
yéménite. Ça va.
C'est bien.
Yalla.
Non, j'ai pas besoin.
Non, je partage.
J'ai pas besoin.
Il n'en a pas besoin.
Ah.
Bah, il le prend pour le musée.
Non, j'ai pas de musée.
Yalla, Belhaï. Yalla,
Belhaï.
Yalla, Avouak. Yalla, Yaman. يا من عليك عليك التوكل والخلاف يا من لك الألطاف ألطاف فينا ثانية يا الله يا رحمة صلى عليك الله
Bientôt, le musée pour les joyeux Vulcains de Sanaa. C'est dommage de pas avoir l'usage d'une serrure forgée par ce forgeron. Mais elle fait combien 5 kilos cette serrure. C'est dommage de pas avoir l'usage de ne plus avoir l'usage. Voilà, mais la page tourne, la roue tourne. Ils sont toujours là. Espérons le plus longtemps possible. Il y a encore d'autres souks, celui des Ferblantiers, par exemple, qui sont aussi hallucinants de savoir-faire et d'habileté dans ce marché de Sanaa. Il faut dire à quel point les gens de ce marché, et comme en général les Yéménites, sont des gens ouverts, incroyablement ouverts, hospitaliers et tolérants pour un pays qui est réputé avoir été replié comme ça sur lui-même, en tous les cas coupé du monde aussi longtemps. C'est étonnant de voir autant d'ouverture d'esprit et d'ouverture sur les étrangers. Là, on va dans le marché du café. Le café a été l'une des raisons du développement, l'un des grands cycles de développement du Yémen. Moka, c'est une ville du Yémen. C'est un port sur la mer Rouge, le Moka. C'est un mot qui se perd un peu chez nous, mais c'était le signe, c'était la marque, enfin un genre de café très très prestigieux à travers le monde. Il y a eu le cycle de l'encens et de la myrrhe jadis, puis le cycle du café. Aujourd'hui, c'est plus le cycle du cat dont on a parlé hier, qui assure le développement, enfin le grand fonctionnement, le nerf économique, si on peut dire, de ce pays. Balade dans le souk du café. Ah, d'accord.
Ah oui, c'est une cour du café. Il y en a trois à Sanaa qui réunit la production yéménite de café, qui est ensuite réexportée, notamment vers l'Arabie Saoudite.
Mais le café, maintenant, c'est insignifiant.
Il y a effectivement, par rapport à l'âge d'or du commerce du café au XVIIIe siècle, c'est effectivement, ça s'est beaucoup réduit. Mais il y a encore une demande quand même pour le café yéménite. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que les yéménites boivent l'écorce de café en décoction.
C'est ça.
Donc ça, c'est vraiment la production consommée localement. Sinon, le café, en grande partie, est exporté.
Mais en fait, le développement du pays a été dû au café.
Le café a été un petit peu comme le pétrole pour l'Arabie Saoudite, d'une certaine façon, au XVIIe, XVIIIe siècle.
Et ça, c'est fini comment ce...
Alors, malheureusement, si on peut dire, des commerçants hollandais sont venus à Moka, ont pris des plants de café et les ont implantés dans les Antilles hollandaises. Ensuite, les Français les ont transportés à l'île Bourbon et ont concurrencé ensuite le commerce du café yéménite.
Et donc chute.
Chute radicale et pratiquement totale. Disons, dès le 19e siècle, la production de café est devenue presque marginale.
أهلا وسهلا يا مرحبا بك يا رمضان 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 يا
رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا Un moulin à huile, et un énorme moulin à huile, et qui est animé par un chameau. Le chameau qui est devant nous, là, à l'intérieur de ce bâtiment, cette sorte de grotte, de caverne, là. Il y a ce garçon qui est couché, qui est le maître du lieu, et qui a de la luzerne, un genre de fourrage.
Je suis en train de donner à manger à mon dromadaire. Je fais de l'huile de sésame ici.
Ah. Il est aveugle, votre chameau ?
Non. Non, non, il n'est pas aveugle. Lorsqu'il fait marcher le moulin, oui, on lui couvre les yeux. Mais il n'est pas aveugle.
Et pourquoi il faut lui couvrir les yeux ?
Pour qu'il n'ait pas la tête qui tourne.
Depuis combien de temps il fait ça ? Il fait ça toute sa vie ?
Ça fait un an et demi seulement qu'il fait ça.
Et il va le faire combien de temps ?
De 5 à 10 ans. Ou peut-être pour toujours.
Et vous ?
Moi, ça fait 10 ou 15 ans seulement.
Depuis quand existe le moulin ?
Ça date de l'époque de mon grand-père.
Votre grand-père faisait déjà ça ?
Ah oui.
Tous,
toute la famille, mon grand-père, mon père, nous, c'est héréditaire chez nous.
Depuis combien de temps ? Depuis le prophète ?
Non, plus tard quand même. À l'époque de l'imam. L'imam Yahya.
400.
Il est en train de vendre un peu d'huile et il dit que ça coûte 400 riyals.
Le litre ?
Non, c'est la petite bouteille.
Ah, les petites bouteilles. Les petites bouteilles qui sont là, c'est de l'huile de sésame et il le vend là.
C'est très efficace comme médicament. Ça réchauffe la poitrine, c'est bon pour le rhume, pour les rhumatismes, pour les genoux. Et ça s'appelle salit musallat, c'est-à-dire il fait autorité contre toutes sortes de douleurs.
Ça c'est quoi?
C'était une nouvelle diffusion d'un reportage de Daniel Mermet à Sanaa, au Yémen. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, rubrique émission, là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Pascal Baldassari et Stéphanie Coulon, réalisation Yann Chouquet et Koye Nguyen. Assistante Charlotte Perry, chef du répondeur Christophe Imbert, il attend vos messages au 01 56 40 37 37. Dans quelques instants, nous rejoindrons Frédéric Ledin.